Caché derrière d'épaisses barrières, le cœur devient de glace. Darvi Odrade, débat au sein du Conseil. De violentes tensions régnaient sur le groupe, constitué de Taratsa, portant en secret une cotte sous sa robe et la tête remplie des autres précautions qu'elle avait prises. Odrade, persuadé qu'un affrontement violent se préparait et par conséquent sur ses gardes. Shiana, parfaitement au courant de la situation et protégée par trois révérendes mères de la sécurité qui allaient partout avec elle comme une armure vivante. Vaf, redoutant que sa raison ait été altérée par quelques mystérieux artifices du Bene Gesserit. Du faux Tuek, manifestant tous les symptômes d'une fureur près d'éclater. Et de neuf conseillers rakiens du grand prêtre, rageusement occupés chacun en son fort intérieur, a trouvé le moyen d'assurer sur les autres sa suprématie et celle de sa famille. En outre, cinq acolytes spécialement sélectionnés et entraînés par le Bene Gesserit au combat rapproché se tenaient à proximité de la mère supérieure, tandis qu'un nombre égal de danseurs visages ne quittait pas Vaf. L'assemblée se tenait au dernier étage du musée de Darès Balat. La salle était vaste, tout en longueur, avec un mur de place qui donnait à l'ouest sur un jardin suspendu de verdure luxuriante. À l'intérieur, le décor consistait en divans moelleux et objets d'art tirés des collections du tyran. Odrade n'était pas d'accord sur la présence de Shiana, mais Taratsa s'était montrée intransigeante sur ce point. L'influence de Shiana sur Vaf et sur la majorité des prêtres représentait un avantage trop important pour le Bene Gesserit. Il y avait des stores de dolban tout au long du mur vitré pour atténuer la clarté du soleil déclinant à l'ouest. L'exposition de cette pièce au couchant avait pour Odrade une signification toute particulière. L'ouest, c'était le désert où reposait Shai Hulud. C'était le passé. C'était la mort. Elle admirait les dolban le long du place. C'étaient des panneaux constitués de lamelles noires de 10 molécules d'épaisseur animé d'un mouvement de rotation au sein d'un fluide transparent. Pourvu d'un système de réglage automatique, les meilleurs dolban de fabrication ixienne laissaient passer une quantité prédéterminée de lumière sans gêner notablement la vue. Les artistes et les antiquaires les préféraient au système à polarisation parce qu'elles ne modifiaient pas au passage le spectre de la lumière disponible. Leur emploi dans cette salle correspondait à l'usage auquel elle était habituellement destinée. Celui de vitrine pour les plus belles collections de l'Empereur Dieu. Et là, oui, c'était une robe qui avait été portée par la fiancée d'un jour du tyran. Les prêtres de Rakis, groupés à une extrémité de la salle, étaient plongés dans une discussion animée. Ils ignoraient complètement le faux Tuek. Taratsa, non loin, les écoutait. Son expression indiquait qu'elle les jugeait stupides. Vaf se tenait avec ses danseurs visages près de la grande porte d'entrée. Son attention allait de Shiana à Odrade, puis à Taratsa, et seulement de manière occasionnelle au groupe de prêtres occupés à se chamailler. Chaque mouvement que faisait le Tleilaxu trahissait ses incertitudes. Le Bene Gesserit allait-il le soutenir vraiment? Pourraient-ils ensemble imposer leur volonté à l'opposition rakienne par des moyens pacifiques? Shiana et ses gardes du corps se rapprochèrent d'Odrade. La jeune fille avait des membres grêles, remarqua la révérende mère, mais elle était en train de s'étoffer. Sa musculature prenait un aspect typique du Bene Gesserit. Ses pommettes osseuses s'adoucissaient sous la peau bistre, ses yeux marrons devenaient plus brillants, mais il y avait toujours des filets fauves dans sa chevelure châtain. L'attention qu'elle consacrait au prêtre indiquait qu'elle tenait compte de ce qui lui avait été révélé avant la séance.
« Ils vont vraiment se battre ? » chuchota-t-elle.
« Écoute-les bien, » lui répondit Odrade.
« Que va faire la mère supérieure ?
Observe-la attentivement. » Elles regardèrent toutes les deux Taratsa au milieu de ses acolytes musclés. La mère supérieure paraissait maintenant amusée par le comportement des prêtres. Le groupe de rakiens avait commencé cette discussion à l'extérieur, dans le jardin suspendu. Puis, le soleil ayant décliné, il était rentré la continuer dans cette salle. Les prêtres gesticulaient, soufflaient rageusement, grommelaient des menaces et élevaient la voix de temps à autre. Ne voyaient-ils donc pas la manière dont le faux Tuek les observait? Odrad reporta son attention sur l'horizon visible au-delà du jardin suspendu. Il n'y avait pas le moindre signe de vie dans le désert. Partout où son regard se posait, il n'y avait que du sable. Les gens qui étaient nés et qui avaient grandi ici avaient sur l'existence et sur leur propre planète un point de vue qui différait de celui de la plupart de ces prêtres. Ce n'était pas l'Arrakis des oasis et des zones vertes irriguées qui abondaient aux latitudes plus clémentes, pointant leurs doigts fleuris vers les grandes étendues arides. À partir de Dar es-Balat, le désert méridien ceinturait la planète comme un bandeau.
« J'en ai assez de vos discussions insensées !»
explosa brusquement le faux Tuek. Il repoussa brutalement un des prêtres et pénétra au milieu du groupe en pivotant sur lui-même pour dévisager un par un les conseillers irakiens.
« Êtes-vous donc tous devenus fous ?»
ajouta-t-il d'une voix exaspérée. L'un des prêtres, c'était le vieil Albertus, par les dieux, regarda dans la direction de Vaf en lui criant
« Sœur Vaf, voulez-vous avoir l'obligeance de rappeler votre danseur visage ?»
Vaf hésita, puis se dirigea lentement vers les prêtres, entouré de son escorte. Le faux Tuek s'avança comme un fou vers lui en brandissant le doigt.
« Vous, restez où vous êtes. Je ne tolérerai aucune ingérence de la part des Tleilaxu. Votre conspiration est parfaitement évidente. »
Odrad n'avait pas quitté le Tleilaxu des yeux pendant que l'autre parlait. Quelle surprise. Jamais le maître Tleilaxu n'avait entendu un de ses protégés lui parler ainsi. Quel choc. La fureur déformait ses traits. Des sifflements évoquant des insectes furieux sortirent de sa bouche, mêlés à des stridulations syncopées. Visiblement, il s'agissait d'un langage. Les danseurs visages de son escorte restèrent pétrifiés, mais le faux Tuek se tourna vers les autres prêtres sans paraître autrement affecté. Vaf cessa de striduler. Consternation. Son danseur visage ne lui obéissait plus. Il marcha vers les prêtres, mais le faux Tuek s'en aperçut aussitôt et leva à nouveau vers lui un index tremblant.
« Je vous ai dit de ne pas vous mêler de ça. Vous réussirez peut-être à vous débarrasser de moi, mais ne me jetez pas vos obscénités Tleilaxu à la figure. »
L'effet fut instantané. Vaf s'arrêta, comprenant enfin. Il jeta un coup d'œil à Taratza, vit l'amusement qui se peignait sur ses traits. Sa rage avait trouvé une nouvelle cible.
« Vous saviez !»
accusa-t-il.
« Je m'en doutais seulement. Vous êtes. Vous avez trop cherché la perfection,
lui dit la mère supérieure.
C'est vous qui êtes responsable. »
Les prêtres ne faisaient guère attention à cette conversation. Ils entouraient le faux Tuek en lui criant de se taire et de s'en aller. Et ils le traitaient de « maudit danseur visage ». Odrad étudiait avec attention l'objet de leurs attaques. Jusqu'où la transcription était-elle poussée? Était-il vraiment convaincu d'être le vrai Tuek? Soudain calmé, le faux grand prêtre se drapa dans sa dignité et jeta un regard de mépris à ses accusateurs.
« Vous me connaissez tous, » dit-il. « Vous connaissez mes années de service et de dévouement au Dieu fractionné qui n'est qu'un seul Dieu. Je suis prêt à aller à lui si c'est ce que vous conspirez de me faire faire. Mais n'oubliez jamais ceci. Il sait ce qu'il y a dans vos cœurs. »
Les prêtres se tournèrent vers Vaf comme un seul homme. Aucun d'eux n'avait vu un danseur visage prendre la place de leur grand prêtre. Il n'y avait pas eu de témoins rakiens. Les seuls témoignages dont ils avaient connaissance provenaient de bouches qui avaient très bien pu mentir. Quelques têtes se tournèrent aussi vers Odrad. Elle faisait partie de ceux qui leur avaient raconté cette histoire. Vaf également s'était tournée vers Odrad. Elle sourit en s'adressant au maître Tleilaxu.
Il ne nous sied pas pour le moment que la grande prêtrise passe en d'autres mains.
Vaf vit immédiatement les avantages en ce qui le concernait. C'était un coin fiché entre les prêtres et le Bene Gesserit qui rendait presque inopérant l'un des leviers les plus dangereux que possédaient les sœurs pour agir contre le Tleilax.
Cela ne me sied pas non plus, répliqua-t-il.
Comme les prêtres faisaient de nouveau entendre leur voix rageuse, Taratza intervint juste à point.
« Lequel d'entre vous rompra notre accord ?»
Tuek écarta deux de ses conseillers et s'avança vers la mère supérieure. Il ne s'arrêta qu'à un pas d'elle.
« À quoi jouons-nous ici ?»«
Nous vous soutenons contre ceux qui voudraient vous remplacer. Le Bene Tleilax a la même position que nous.
C'est notre manière de démontrer que nous aussi avons notre mot à dire dans le choix du grand prêtre. » Plusieurs voix sacerdotales s'élevèrent alors à l'unisson. « Est-ce un danseur visage ou non ?» Taratsa s'adressa d'un air affable à celui qui lui faisait face.
« Êtes-vous un danseur visage ?»«
Bien sûr que non !»
La mère supérieure se tourna vers Odrad.
« J'ai l'impression qu'il y a eu un malentendu, » dit celle-ci.
Elle choisit Albertos parmi les prêtres et riva son regard au sien.
« Chiana !»
demanda-t-elle d'une voix forte.
« Que doit faire à présent l'église du dieu fractionné ?»
Comme on le lui avait préalablement recommandé, Chiana fit un pas hors du cercle de ses gardes du corps et déclara avec toute la hauteur dont elle était capable
« Elle doit continuer à servir Dieu !»« Je crois que le principal objet de cette réunion vient d'être réglé, » annonça Taratsa. « Si vous avez besoin de protection, grand prêtre Tuek, un détachement de nos gardes attend dans le couloir, il est à vos ordres. »
Elle vit en lui l'acceptation et la compréhension. Il était devenu la créature du Bene Gesserit. Il avait tout oublié de ses origines de danseur visage. Quand les prêtres et Tuek furent sortis, Vaf adressa un seul mot à Taratsa dans le langage de l'islamiyat.
Expliquez.
Taratsa fit un pas en avant, laissant ses gardes derrière elle. Elle se rendait ainsi ostensiblement vulnérable. C'était un mouvement calculé, débattu avant cette réunion en présence de Chiana. Dans le même langage, elle répondit à Vaf.
Nous renonçons à notre emprise sur le Bene Tleilax.
Tout le monde attendait en silence tandis qu'il retournait ses mots dans sa tête. Taratsa n'oubliait pas que le nom dont les Tleilaxus étaient gratifiés eux-mêmes pouvait se traduire par « ceux que l'on ne peut pas nommer ». Un label souvent réservé aux dieux. Ce dieu-ci, visiblement, n'avait pas encore rapproché la découverte qu'il venait de faire ici de ce qui risquait d'arriver à ces danseurs polymorphes infiltrés parmi les Ixiens ou les Truitesses. Un certain nombre de chocs l'attendaient. Pour le moment, il semblait fort perplexe. Vaf était aux prises avec de nombreuses questions sans réponse. Les rapports qu'il avait reçus de Gameux ne le satisfaisaient pas. C'était un double jeu dangereux qu'il jouait en ce moment. Les sœurs jouaient-elles un jeu similaire? Les égarés du Tleilax ne pouvaient être mis à l'écart sans que cela risque de déclencher une agression de la part des honorés matriarches. Taratsa elle-même les avait avertis du danger. Le vieux Bachar de Gameux représentait-il toujours une force digne d'être prise en considération? Il posa cette dernière question à haute voix. Taratsa riposta par une question de son cru.
« Qu'avez-vous fait à notre Gola? Qu'espériez-vous gagner en le changeant ?»
Elle était sûre de connaître déjà la réponse, mais il était nécessaire qu'elle feigne l'ignorance. Vaf aurait voulu répondre « La mort du Bene Gesserit et de tous ses adeptes ». Les révérendes mères étaient beaucoup trop dangereuses. Pourtant, leur valeur était inestimable. Il se figea dans un silence renfrogné, lorgnant les sœurs avec une expression boudeuse qui accentuait l'aspect enfantin de son visage de lutin. « Un enfant capricieux », se dit Taratsa. Mais elle savait qu'il était dangereux de sous-estimer Vaf. La coquille des Tleilaxus, lorsqu'elle était brisée, ne révélait que la présence d'une autre coquille à l'intérieur. Et cela à l'infini. Tout tournait finalement autour des soupçons d'Odrad sur le grand sujet de discorde qui risquait encore d'aboutir dans cette pièce à une effusion de sang. Les Tleilaxus avaient-ils réellement révélé tout ce qu'ils avaient appris des catins et des autres égarés? Le Gola n'était-il rien d'autre qu'une arme en puissance pour les Tleilaxus? Taratsa décida de l'aiguillonner à nouveau en utilisant l'approche de l'analyse numéro 9 élaborée au Conseil. Toujours dans le langage de l'islamiyat, elle murmura
« Allez-vous vous déshonorer au pays même du prophète? Vous n'avez pas partagé avec nous comme vous l'aviez dit. Nous vous avons décrit l'usage sexuel. Vous n'avez pas tout partagé. C'est à cause du Gola, nous le savons. »
Elle voyait sa réaction. C'était celle d'un animal pris au piège, dangereux à l'extrême. Elle avait vu un jour un chien bâtard descendant à la queue rase retournée à l'état sauvage des anciens animaux de compagnie des Daniens, acculé dans un coin par une bande de gamins. L'animal s'était retourné contre ses poursuivants et s'était frayé à coups de crocs, à coups de griffes, avec une férocité tout à fait inattendue, un chemin vers la liberté. Résultat, deux enfants estropiés à vie, un seul s'en tirant indemne. Vaf était en ce moment comparable à cet animal. Elle voyait sa main trembler à la recherche d'une arme. Mais Clé Laxu et Bene Gesserit s'étaient mutuellement fouillés avec un soin extrême avant d'entrer ici. Elle était sûre qu'ils n'avaient aucune arme. Néanmoins, Vaf parla d'une voix pleine de sous-entendus méfiants.
« Vous croyez que je ne sais pas de quelle manière vous comptez nous imposer votre loi ?
Voilà le pourrissement que les gens de la dispersion ont emporté avec eux !»
s'écria Taratza.
« Le pourrissement du centre !»
L'attitude de Vaf changea brusquement. Il ne pouvait pas ignorer les implications profondes des conclusions du Bene Gesserit. Mais était-ce la discorde qu'elle était en train de semer ?
« Le prophète a implanté un repère sonore dans la tête de chaque humain, dispersé ou pas ?»
continua Taratza.
« Et il nous les renvoie avec leur pourrissement intact. »
Vaf serrait les dents. Que cherchait-elle à faire ? Il ne pouvait s'empêcher d'entretenir cette folle pensée que les sœurs lui avaient embrumé l'esprit en incorporant quelques drogues secrètes à l'air qu'il respirait. Elle connaissait des choses dont l'accès était interdit aux autres. Son regard alla de Taratza à Odrad, puis inversement. Il savait qu'il était vieux en termes de résurrection de Gola, mais il n'était pas vieux au sens où pouvait l'être le Bene Gesserit. Ces femmes étaient âgées. Elles portaient rarement leur âge sur leur visage, mais elles étaient vieilles au-delà de tout ce qu'il osait imaginer.